I think there's blame on both sides, and I have no doubt about it, and you don't have any doubt about it either.
Le 18-20, édition spéciale en direct de Washington.
Et voilà, en direct de Washington à nouveau, on n'a pas quitté la ville politique s'il en est, qui s'est réveillée donc avec un congrès coupé en deux, sans surprise, on l'a beaucoup dit, un président Trump qui s'est réveillé plus combatif que jamais, vous l'avez entendu lors de cette conférence de presse, pas de vague bleue donc qui dirait que tout un pays veut une nouvelle direction, mais bien un pays qui acte sa coupure en son milieu, un pays tranché dans sa chair, un pays de nouvelles têtes aussi, parfois au féminin, et on y reviendra. Alors qui va gouverner et comment, qui va empêcher l'autre d'agir et comment, qu'est-ce que ça veut dire pour 2020 dans les deux camps? On vous emmènera aussi avec Franck Madvon dans les petites histoires d'une élection avec un sous les radars made in Washington. Nous irons en Floride avec Claude Guibal aussi. Dans un instant, l'Amérique est vaste, elle est coupée en deux. En deux, on ne la raccommodera pas. En deux heures, on peut toujours essayer, c'est parti.
Fabienne Saint-Fès, 18-20 spécial.
Tiens, je vais vous décrire où nous sommes d'abord avant de présenter les invités qui sont autour de nous. On est dans un café qui s'appelle le Boys Boys and Poets sur la 14e rue à Washington. On est dans un endroit très branchouille, on va le dire comme ça, Grégory Phillips, vous n'allez pas me contredire sur ce terme-là. Très démocrate aussi, ici on parle de genre, on parle de féminisme, on parle de politique, on parle de tout ça. On lit, on a des livres un peu derrière. Il y a un portrait de Barack Obama juste au-dessus de nous, ou pas très loin de nous. Et pour la petite histoire, pas très loin, dans Hugh Street, il y a un café qui s'appelle Ben Chili Bowl, et pour vous situer un peu l'ensemble du quartier, c'est ici que Obama est venu la toute première fois qu'il est arrivé à Washington en 2008, c'est le premier endroit où il est allé. Donc ça vous permet de situer un peu l'endroit où nous sommes ce soir. On rappelle quand même que ici dans cette ville de Washington, 95% des gens avaient voté Hillary Clinton, donc voilà aussi le contexte. Les invités ce soir et autour de nous, Caroline Fredrickson, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente d'une ONG qui s'appelle American Constitution Society for Law and Policy. Bonsoir Célia Belin.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse invitée à l'Institut Brookings. Et bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Fabienne, on ne se quitte pas.
Oui, c'est ce que j'allais dire, on ne s'est pas quitté. On s'est vu très très tard, on se revoit encore et on n'a pas fini. Je vais commencer avec vous Caroline Fredrickson. Est-ce que vous êtes une démocrate ce soir, quoi? Heureuse, soulagée, déçue, dubitative, inquiète? Vous
Alors,
êtes passée par quelle couleur vous?
Je veux dire que mon ONG, ça, c'est pas partisan.
D'accord.
Alors, pour moi, j'ai travaillé dans le Sénat et dans la Maison Blanche plusieurs années pour Clinton, et puis alors je suis démocrate, mais c'est privé. Alors,
okay.
Mais pour moi, je suis un peu déçue, mais aussi optimiste. Alors, c'est moitié-moitié, je pense.
Qu'est-ce qui vous déçoit, au fond? Parce que les résultats sont pas très étonnants par rapport à ce qu'on avait anticipé. Donc, qu'est-ce qui vous déçoit
Il y a des courses en Floride, surtout où Gillum a perdu le
candidat gouverneur.
Oui, pour le gouverneur. Et alors les sondages ont dit que il va gagner, mais c'est pas arrivé.
Pour une ONG comme la vôtre, Caroline Fredrickson, qu'est-ce que ça veut dire, puisque vous vous occupez notamment de droit et faire en sorte que le droit soit respecté à certains égards, ça veut dire quoi? Ça veut dire pousser la Chambre, est-ce que c'est ce que vous voudriez? Est-ce que ça veut dire pousser la Chambre à l'attaque, désormais qu'elle a la majorité? Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, ce ne sont pas des lobbyistes, c'est plutôt pour l'éducation publique, discuter des lois, des projets, et même les juges.
Mais justement, est-ce qu'il faut pousser une chambre majoritaire désormais à aller dans un certain sens dans ces cas-là, même si vous l'avez dit, vous n'êtes pas lobbyiste? Est-ce qu'il faut profiter de cette nouvelle majorité pour des gens comme vous ou pas?
Bien sûr. Il y a plusieurs sujets, surtout le droit de voter. Alors, ça, c'était vraiment... Il y avait des efforts de supprimer le vote par les républicains. Et maintenant, peut-être les démocrates ne peuvent pas passer des lois pour adresser ce problème. Quand même, ils peuvent adresser et discuter.
Célia Belin, est-ce qu'on s'oriente vers quoi? Une espèce de... Comment on va appeler ça? Une sorte de guérilla urbaine entre Donald Trump et sa Chambre des représentants? Ça va se présenter comment dans les deux ans à venir, à votre avis?
Je pense que les résultats d'hier soir ont validé la technique de Donald Trump, la technique de la division, la technique du rassemblement de la base électorale. Donc il n'y a franchement aucune raison qu'il change de technique. D'ailleurs, il a proclamé sa victoire.
Il vient de le dire.
Il a même, pendant son discours, là, sa conférence de presse, il a même nommé individuellement les républicains qui avaient osé ne pas le prendre comme exemple et ne pas se revendiquer du trumpisme. Et qui ont ensuite perdu, et donc quelque part il se venge d'élus de son propre camp. Donc Donald Trump a été vraiment validé là, et il va continuer à dénoncer les démocrates, à dénoncer la presse, à diviser le pays.
Ça veut dire que tout le monde va aller au contact, parce que jusqu'à présent, ce qu'on voit dans quand Trump attaque, en gros, les démocrates répondent. Je ne sais pas si c'est une bonne technique au fond, finalement, de se retrouver dans cette situation-là, mais est-ce que ça va se poursuivre sur le même thème, dans ce même tempo, avec ce pouvoir supplémentaire qu'aura désormais la Chambre, pour le coup?
Les démocrates ont un vrai problème de positionnement. Nancy Pelosi, dans son discours de victoire hier, a dit en gros, on va parler de manière constructive parce qu'en fait, on va essayer de faire des avancées, notamment sur les questions de santé, sur les infrastructures. Elle sait très bien que 2 ans au pouvoir, si les démocrates reviennent même seulement à la Chambre et qu'ils n'ont rien à proposer, qu'ils sont seulement le parti de l'obstruction, leurs électeurs leur en voudront énormément. Le paradoxe, c'est que quand les républicains ont fait la même chose sous l'administration Obama...
Tout de suite, d'ailleurs.
Voilà. Les électeurs ne l'en auront pas voulu. Parce qu'en gros, il n'y a pas la même mentalité dans le camp démocrate et dans le camp républicain.
Est-ce qu'il faudra faire, cependant, est-ce que les électeurs attendent ça pour cette Chambre démocrate, un coup d'emblée, lancer une enquête, parce que c'est l'une des prérogatives que peut avoir la Chambre, lancer une enquête d'emblée, lancer une bombe dans le camp de Donald Trump, par exemple la feuille d'impôt, des choses symboliques de ce genre-là. Est-ce qu'il faut s'attendre à ça dans les jours qui viennent?
Oui, parce que de toute façon, il y a une myriade d'élus qui ont dit, qui ont annoncé, soit qu'ils iraient vers la procédure de destitution, même si ça, à mon avis, le leadership démocrate va l'empêcher, mais en tout cas, qui vont lancer des enquêtes. Il y a le prochain président de la commission sur le renseignement, Adam Schiff, qui est le démocrate qui attendait son tour et qui va maintenant présider cette commission, qui a déjà tout un tas de dossiers prêts à être dégainés. Simplement, encore une fois, ils ne peuvent pas le risque, c'est pour eux, c'est de victimiser Donald Trump et que Donald Trump se transforme en martyr des démocrates, ce qu'il sait très bien faire, et qu'ensuite il les repousse, il fight back, il se batte contre et finalement triomphe d'eux en 2020. Ce serait vraiment le pire scénario.
Grégory Phillips, en un mot, avant d'être peut-être un peu plus spécifique, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles qu'on peut pointer, notamment dans le camp démocrate qui en espérait peut-être un peu plus? Il y a quelques endroits qui étaient clés dans lesquels on avait mis beaucoup de charges, y compris une charge émotionnelle de la part des démocrates, qui se retrouve quand même un peu le bec dans l'eau ce soir,
ouais,
ce matin.
On l'évoquait tout à l'heure, la Floride, par exemple, les démocrates misaient beaucoup sur ce candidat noir, maire de Tallahassee, pour devenir le gouverneur de l'État, et c'est raté. Le Texas, il y a cette figure naissante du Parti démocrate, Beto O'Rourke, une quarantaine d'années, qui se présentait face aux républicains sortants, le sénateur...
Un peu un mirage, non? C'était pas un mirage, Beto O'Rourke? Il y a Corinne Fredrickson qui fait oui comme ça avec
la tête. Personne ne croyait véritablement qu'il allait remporter le Texas, mais néanmoins, il a fait une très belle campagne. C'est lui qui a levé le plus de fonds dans ses midterms, donc il y a eu un élan derrière lui assez important. Finalement, il ne remporte pas le Texas, mais on se dit que peut-être dans les, peut-être pas dans les 2 ans, mais dans les 4 ans ou dans les 8 ans qui viennent, peut-être que le Texas
sera démocrate.
Un jour, sait-on jamais. En tout cas, Beto O'Rourke ne l'a pas emporté, mais il reste une figure du Parti démocrate et personne ne sait quel sera son avenir, mais c'est quelqu'un d'assez brillant, je pense que vous serez assez d'accord pour le dire. Et voilà, les déceptions viennent de là, et les satisfaits du Parti démocrate, c'est ces femmes issues des minorités, par exemple, qui entrent au Congrès, et ça, c'est principalement dû au Parti démocrate.
Vous avez le sens de la transition, Grégory Phillips, et c'est ça qui est bien. Tiens, écoutez celle-là.
Assalamu alaikum.
Je vais la traduire un peu au fur et à mesure. Quel voyage incroyable. Je suis devant vous comme votre élue au Congrès désormais. Et il y a beaucoup de premières fois avec moi, nous explique-t-elle.
To represent our state in Congress.
Donc la première femme de couleur qui représente l'État du Minnesota au Congrès.
The first woman to wear a hijab to represent...
La première qui porte un hijab, un voile.
The first
refugee ever elected to Congress.
La première réfugiée élue au Congrès.
And one of the first Muslim women elected to Congress.
Et une des premières musulmanes élues au Congrès.
But you all know, I did not run to be a first. Immigrants promised the land of opportunity.
Et là, elle nous explique que les immigrants à qui on a promis des opportunités dans cette Amérique-là sont désormais considérés, mal considérés, beaucoup de haine et de bigoterie, et elle le laissera parfaire. Voilà, c'est ce que dit Ilhan Omar, élue du Minnesota, américano-somalienne. Qu'est-ce que ça dit quand même, Caroline Fredrickson, d'un pays, quand on peut élire une femme comme celle-là, elle n'est pas la seule, il y en a deux, il y a aussi une amérindienne, qui commence son discours avec Hamdoulilah, ça dit quand même des choses de l'Amérique. Tout n'est pas désespérant dans ce pays, non, c'est le moins qu'on puisse dire.
C'est vrai, mais ça dit plusieurs choses. Alors, premièrement, plus important, c'est que l'Amérique, elle change. Alors, le pays change. Mais aussi que c'est tellement divisé, parce que une femme qui peut être élue à Minnesota, mais c'est dans la ville.
Oui, oui. Très, très grosse communauté somalienne, par ailleurs, là où elle a été élue. Elle est dans son jardin, on est d'accord
oui,
avec
alors,
ça.
Oui, alors, elle est dans son jardin, mais aussi autour d'elle. C'est le jardin de Donald Trump. Et je pense que pour le futur, j'espère que pas tellement, longtemps.
Donc pas longtemps.
Ça va changer aussi, mais pour le futur, les dizaines d'années, il y aura des combats entre ces jardins.
Ouais. On n'y est pas encore. Célia Belin, symboliquement, c'est très important, ou est-ce que ça fait partie de ces espèces de trophées, en fait, je le dis comme ça, que les démocrates vont mettre en avant après ces élections à mi-mandat?
Vous savez, on parle souvent des redécoupages électoraux, des circonscriptions qui favorisent largement les élus républicains, parce qu'on arrive en fait à prendre un État et à le redécouper en petits morceaux, qui fait que les gens sont perpétuellement réélus en tant que républicains, puisqu'il n'y a virtuellement plus aucun vote démocrate. Mais c'est une réalité qui marche aussi dans les deux sens, et qui fait qu'on peut avoir comme ça des îlots démocrates. Et donc, par exemple, cette nouvelle congresswoman qui vient d'être... Voilà, qui vient d'être élue parce que justement, elle est assise sur une sorte de communauté protégée aussi à sa manière. Donc il y a quand même un paradoxe là, et donc on n'atteint plus des responsables politiques ou des élus qui seraient représentatifs du ventre mou de l'Amérique, du centre de l'Amérique, mais plutôt une forme de radicalisation, en tout cas de divergence entre deux extrémités de l'Amérique. Et c'est ce qui donne une politique aussi divisée.
Alors quand même, 100 femmes, à peu près 100 femmes élues, si je me trompe pas. Le dernier record était à 84. Donc effectivement, quand même, de ce point de vue-là, il s'est passé quelque chose. Est-ce qu'on dit que c'est purement un effet Trump, Célia Belin, ça, le nombre de femmes qui ont été élues, le plus de femmes qui ont été élues ou pas?
Non, c'est aussi un effet générationnel. On voit que Nancy Pelosi revient comme speaker de la House.
On en parlera, ouais.
Voilà, pour un deuxième mandat, alors qu'elle a été la première. C'est un effet générationnel dans le sens... Et puis Hillary Clinton était la première candidate d'un des deux partis majeurs à la présidentielle. On avait eu Sarah Palin, candidate vice-présidente. Donc le temps des femmes est venu petit à petit. Et donc, hors Trump, peut-être ce phénomène-là aurait été rigoureusement le même. Ce qui est possible, en revanche... le phénomène Trump a donné plutôt le différentiel de vote entre les femmes et les hommes. On n'a pas encore les chiffres, on connaît juste les intentions, le gender gap, les intentions de vote. On sait qu'il y avait 18 points de différence entre les hommes et les femmes dans le vote. Donc les femmes privilégiaient le Parti démocrate par rapport au Parti républicain. C'est le phénomène de Donald Trump. Mais je pense que l'avènement d'un grand nombre de femmes en politique est un processus naturel qui a été renforcé également par le mouvement culturel du MeToo,
bien sûr,
où il y a vraiment une sorte de mouvement des droits civiques des femmes aux États-Unis.
Et beaucoup de femmes qui se présentaient pour la première fois des élections nationales. D'ailleurs, on commence souvent par les élections locales avant de monter au national. Et là, effectivement, on va directement au Congrès. Mais ce que ça veut dire, quand je vous entends, Célia Belin, c'est qu'il y a quand même un gros travail chez les Républicains à faire pour les femmes, pour les attirer, pour ne pas les perdre, parce qu'il est quand même en train d'en perdre une très grosse partie, Donald Trump, en ce moment.
Oui, il a été critiqué par son parti pendant la campagne et puis ensuite dans les deux premières années de mandat en disant que en faisant sa stratégie de division et puis en appuyant certains groupes et au passage en prenant position par exemple sur la problématique de Kavanaugh, le juge a confirmé la Cour suprême qui a été accusé pendant son processus de nomination et puis Donald Trump, on lui avait ses conseillers lui avaient dit de surtout pas se prononcer et il a eu des mots très durs à l'égard de l'accusatrice de Kavanaugh. Or, ce qu'on voit, c'est que, en fait, sa base électorale ne lui en tient pas rigueur. Sa base électorale pour qui le basculement de la Cour suprême est plus importante que tout ne lui en tient pas rigueur. Alors oui, il a perdu probablement beaucoup de femmes dans la bataille. Mais comme Donald Trump joue un jeu technique électoral qui vise à gagner la carte électorale et non pas à gagner le vote populaire, ce qui est exactement ce qui s'est produit hier, en fait, ça n'a pas d'importance.
18-20 spécial au café Boys, Boys and Poets, toujours en plein centre-ville de Washington. Restez avec nous, Secret Seed, sur France Inter. On se retrouve juste après.
DNA, the memory of all time. Mother's twin sons recorded chrome creates all cycles of life. Fallen seed plant and conceive the up and down worlds collide. Over and over comes this sacred birth, the blood earth sacrifice. Spinning orbit, Escott and Jay, magnetosphere dance in flight. Expands to Highland Pangea, stands Scott Woman, tree of light. Star, sun, and moon coincide, control ocean tides together. Further rain, fire, and hurricane, four winds and begin forever. Within each seed is a universe, within a universe. You and me and everything that breathes is connected to the sacred seed. Sacred seed, DNA, the memory of all time. Mother's twin sons recorded code creates all the cycles of life. All the cycles of life, fallen seed, plant and conceive, up and down worlds collide. Over and over come the sacred birth, the blood earth sacrifice. A spinning orbit has gone, yeah, magnetosphere in flight. Expands to Island Pangea, stand sky, warm a tree, God light. Hey, star, sun, and moon coincide, control ocean tides together. Thunder, rain, fire, and hurricane, four winds and begin forever. Within each seed is a universe, within a universe. You and me and everything that breathes is connected to the sacred seed.
Fabienne Sanctès, en direct de Washington. Spécial midterm.
Et c'est vrai qu'on est toujours en direct de Washington au café Boys, Boys and Poets sur la 14e rue ici, donc en plein centre-ville de Washington DC. On est à quoi? je dirais, je sais pas, Grégory, un petit quart d'heure à pied de la Maison-Blanche, non? Grosso modo, un peu plus, 20 minutes?
Oui, 20 minutes, quelques blocs. C'est un autre quartier. On est vraiment sur U Street.
Ici. Allez, on va retrouver Franck Madvon. Bonsoir, Franck.
Bonsoir, Fabienne.
Qui avait suivi, vous aussi, pour France Inter, ces élections à mi-mandat. Et vous avez une sorte de sous les radars un peu made in Washington pour ce soir. Vous avez été chercher ce qu'il y avait un peu sous cette élection, les petites choses qu'on a peut-être pas vraiment vu. Il y a une chose d'abord, et on aura l'occasion d'y revenir, Franck, partout, on peut le dire partout, où Trump a fait campagne, le candidat a été élu. Ça, c'est l'un des premiers enseignements que vous avez voulu retenir.
Oui, c'est vrai, presque partout. Trump a en fait consolidé sa base dans les zones rurales plutôt conservatrices. Le Parti démocrate s'est d'ailleurs effondré dans ces secteurs. Alors par exemple, lundi, Trump s'est déplacé dans 3 États pour ses 3 derniers meetings, Ohio, Missouri, Indiana, et sa présence a manifestement aidé les candidats républicains. Dans l'Ohio, le républicain Mike DeWine devient gouverneur. Le candidat républicain au Sénat a échoué, mais il n'avait presque aucune chance. Dans le Missouri, victoire là aussi du républicain Josh Hawley, une course clé pour le Sénat d'ailleurs. Enfin, dans l'Indiana, le républicain Mike Brown fait aussi son entrée au Sénat. Presque un carton plein donc, Fabienne, pour Trump sur ses derniers meetings. Le président américain l'avait dit, il a d'abord fait campagne pour le Sénat et les postes de gouverneur. Et de ce point de vue, les résultats lui sont aussi favorables en Floride, dans le Tennessee, dans le Dakota du Nord, voire en Géorgie et dans le Montana, où ses candidats sont légèrement en tête, même si les résultats ne sont pas confirmés. Et tous ces nouveaux élus lui sont fidèles. Ils ont fait campagne sur l'immigration, sur le respect du Second Amendement, le droit de porter une arme, sur l'injustice faite au juge Kavanaugh, nommé à la Cour suprême malgré des accusations d'agression sexuelle. Injustice, bien sûr, du point de vue républicain, ça c'est pour l'électorat évangélique. Manière aussi pour Trump de prendre les rênes de ce parti républicain. Alors en revanche, les banlieues résidentielles capitales dans un vote américain semblent à présent se tourner vers les démocrates.
Et puis alors, comme toujours, Franck, lors des élections américaines, plusieurs consultations locales qui se tenaient, certaines intéressantes à pointer.
Oui, il y avait 150 consultations locales environ. Alors il y a beaucoup de consultations vraiment très très locales ou sur des questions budgétaires, financières qui nous intéressent un peu moins. Par exemple, l'Arkansas et le Missouri ont choisi d'augmenter le salaire minimum. Les électeurs de l'État de Washington ont voté pour ou contre une taxe carbone. Alors on ne connaît pas le résultat, mais la mesure est très débattue dans cet État de l'Ouest. Le décompte est encore en cours. Le Massachusetts a rejeté une mesure qui aurait pu permettre d'éviter toute discrimination de personnes transgenres. C'est un sujet dont on parlera sans doute en 2020. Le Michigan a choisi de légaliser le cannabis. C'est le premier État du Midwest à le faire. Le Dakota du Nord a dit non à la même question. Et puis la consultation à retenir peut-être, hein, s'il y en avait qu'une, elle s'est tenue en Floride. Les électeurs ont décidé de rétablir le droit de vote pour les anciens prisonniers ayant purgé leur peine. Et c'est le cas d'1 500 000 personnes dans l'État. Cette loi très sévère concernait particulièrement les Noirs qui sont surreprésentés dans le système carcéral. Vous le savez, 1 Noir sur 5 ne pouvait pas voter jusqu'ici. Et ce texte datait du 19e siècle.
Franck, il y a des petites choses anecdotiques aussi, on ne va pas passer à côté. On avait parlé dans Sous les radars avec Amélie Perrier il y a quelques semaines de ça, de ce candidat républicain mort le mois dernier, qui était candidat dans le Nevada. Est-ce qu'il a été élu? Le mort.
Oui, Fabienne, oui, bah, il a été élu. Son nom, Dennis Hoff. Il avait 72 ans et c'était, faut le dire, hein, le Mac le plus célèbre des États-Unis. Il tenait une maison close dans le Nevada. Il a aussi participé à une émission de télé-réalité sur HBO, d'où sa notoriété. Et le Nevada, c'est une anomalie, hein, permet à un candidat décédé de rester sur le bulletin de vote. Les républicains devront juste, bien sûr, lui trouver un remplaçant. Dennis Hoff était candidat à la Chambre des représentants locale. Hein, précisons-le, celle de l'État du Nevada, oui, c'est mieux forcément. Il adorait, sachez-le, Donald Trump. Il avait même écrit un livre en référence au best-seller du milliardaire. Je ne sais pas si Amélie vous en avait parlé, hein, ce best-seller intitulé The Art of the Deal, ouais. L'art de la négociation. Eh bien, l'ouvrage de Hoff s'intitulait The Art of the Pimp, l'art voilà. Du macro.
J'adore cette manière très sérieuse que vous avez, Franck, de dire c'est une anomalie. Oui, comme vous dites, ça s'appelle une anomalie. Et sinon, et pour terminer rapidement, un candidat qui prend sa revanche sur l'émission satirique Saturday Night Live.
Oui, il s'appelle Dan Crenshaw, c'est un ancien soldat, membre des Navy SEALs. Il était candidat hier au Texas, à la Chambre des représentants. Dan Crenshaw a perdu son œil droit en Afghanistan, victime d'un engin explosif. Il porte donc un cache-œil, un bandeau. Et samedi, le comédien Pete Davidson n'a pas fait de sentiment en montrant une photo de Crenshaw, candidat républicain donc.
This guy's kind of cool, Dan Crenshaw.
Oh, come on, man.
Yo, hold on. You may be surprised to hear he's a congressional candidate from Texas and not a hitman in a porno movie.
Voilà, ça va vous surprendre, dit Davidson. Ce type est candidat au Congrès dans le Texas. Il n'est pas tueur à gages dans un film porno. La blague a suscité un tollé. On ne se moque pas ainsi d'un blessé de guerre aux États-Unis. Le Parti républicain a qualifié la plaisanterie d'abominable. Crenshaw, lui, a tweeté « Les vétérans ne méritent pas que leurs blessures soient utilisées pour de mauvaises blagues ». Eh bien, Dan Crenshaw a été élu hier à la Chambre et ses partisans y voient une belle revanche. Pour eux, la moquerie du Saturday Night Live est typique des élites urbaines déconnectées du peuple américain. Commentaire de la sénatrice républicaine Marsha Blackburn, qui a été élue hier, la gauche n'a de respect pour personne.
Et voilà, comme ça c'est dit. Merci beaucoup Franck Madvon avec nous dans cette émission spéciale. Il y a quand même beaucoup de choses que j'ai retenues dans ce que disait Franck Célia Belin. Effectivement, d'abord, et on en parlait tout à l'heure, l'effet Trump, ça marche partout où il va. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il disait quand il a reproché à ceux qui n'ont pas été élus, bah, fallait me faire venir. En gros, partout où il va, ça fonctionne.
Oui, alors d'un autre côté, Donald Trump n'est allé que pratiquement dans
là où
des
il était
États.
Sûr.
Oui, non, surtout là dans des États pour défendre des sièges sénatoriaux. Il n'a pas vraiment apporté son appui à des candidats à la Chambre des représentants. Alors évidemment, c'est des circonscriptions plus petites, mais ça démontrait aussi que il savait que la bataille était un peu perdue d'avance, et du coup, il était important pour lui de vraiment conserver son avance au Sénat et puis même de l'ancrer. Et donc là, il a fait une campagne, il s'est vraiment démené, il faisait 3 rallyes par jour. Ouais.
Ce que ça veut dire, Caroline Fredrickson, c'est qu'il faudra aussi, au moment de 2020, parce qu'on sait déjà que Trump y va, il va falloir trouver en face quelqu'un. À un moment, on dit ça va être aussi charisme contre charisme, cette histoire-là, en fait. Ça va être aussi un combat de personnes, cette élection en 2020. Il va falloir trouver en face. Et pour l'instant, tout ce qu'on a vu, c'est Barack Obama, au fond. Donc, on a été recherché dans les vieux tiroirs, pardon de le dire comme ça, mais le seul qui avait vraiment
maintenant.
Ce charisme-là.
Mais je ne sais pas exactement, parce que on peut voir que les Américains ont choisi pour la Chambre plutôt les femmes et pas elles ont parlé surtout sur la santé, l'infrastructure et d'autres choses. Ils n'ont pas fait de combat contre Trump.
D'accord.
Alors je sais pas exactement si le candidat des démocrates ça sera le mieux pour eux de directement combattre Trump ou de choisir des thèmes qui sont plutôt intéressant pour les Américains d'avoir un président qui est moins un guerrier comme Trump.
Aller sur le fond, moins jouer sur la forme, au fond, Célia Belin, mais enfin quand même, quand je regarde autour, vous en avez parlé, Nancy Pelosi, pardon, qui n'est pas non plus de la première jeunesse, elle a déjà été speaker à la Chambre.
78 ans.
Donc c'est une vieille démocrate, c'est de la vieille école, on dirait que c'est le vieux monde, nous, en ce moment, dans notre manière de lire la politique. On l'entend encore parler de Joe Biden, qui doit avoir, Grégory, le même âge.
72 ou 73 ans.
Ils ont quand même... Là, maintenant, on est 2 ans avant, il faut le trouver, le candidat. Ça commence à urger un peu, non ?
Oui, mais les démocrates ont un énorme problème de renouvellement politique. Et ça, pour 2 raisons. Parce que pendant l'administration... En fait, il n'y a pas de quinquagénaire. Il n'y a pas de quinquagénaire talentueux qui devrait être ceux qui l'emportent en 2020 face à Donald Trump. Et pour 2 raisons. Parce que pendant l'administration Obama, il y a eu un manque d'élus des législatures d'État. Il y a eu un manque de construction du parti par le bas. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de jeunes pousses du parti qui n'ont pas fait de bonne carrière politique en étant élus d'abord à un échelon local, puis en montant à l'échelon de l'État, puis fédéral, etc. Donc, il y a ce manque-là, une quinzaine d'années un peu perdues, qu'on a beaucoup reproché à Barack Obama et qu'il essaie de rétablir. Et puis là, il vient de se passer hier soir un deuxième phénomène, c'est que les grands espoirs, un peu les étoiles montantes du parti qui auraient pu être sur une trajectoire comme Barack Obama a pu l'être en 2004.
Donc vous parlez de Beto O'Rourke, par exemple?
Beto O'Rourke, c'est évident. Stacey Abrams en Géorgie, on verra, elle n'était peut-être pas sur la même trajectoire. Andrew Gillum en Floride, c'est les noms qui étaient, qui commençaient à enthousiasmer tout le monde. Et on disait, s'il gagne l'un, alors que là, objectivement, on ne peut pas penser que ce soit des noms crédits pour 2020.
Grégory Philippe, on en a fait des tonnes sur ces gens-là, en fait. Mais un peu comme si on avait tellement envie, en fait, qu'il y en ait un qui ressemble à ce Barack Obama, parce que les deux que vous avez cités, un noir, une femme noire, et Beto O'Rourke, qui est lui d'origine irlandaise, installé au Texas.
Vous savez, deux jours avant les midterms, le site Axios a publié un sondage dans lequel ils ont testé les possibles candidates face à Trump en 2020. Vous savez quelle est la femme qui battrait Trump à plat de couture? C'est Michelle Obama.
D'accord.
Qui arrive en tête, sauf qu'elle n'a aucunement l'intention de se lancer en politique. Elle l'a dit, redit et répété dans tous les shows télé, etc. Elle ne veut pas aller en politique, mais si elle se présentait, elle serait celle qui battrait le plus facilement Trump.
Ça, c'est le grand fantasme. Puis en général, on va chercher les noms des seuls gens qu'on a à disposition, en fait, parce qu'il en manque tellement autour. Dans Un jour dans le monde, il y a du reportage tous les soirs, évidemment. On va pas déroger à cette règle en ce lendemain d'élection à mi-mandat aux États-Unis. On a parlé de la Floride, Grégory Philippe, ensemble tout à l'heure. Eh bien, c'est là qu'on retrouve Claude Guibal et Jérémy Thuil. On y va tout de suite.
Un petit rectangle préfabriqué posé le long de Magnolia Drive, le Lunchbox, c'est un de ces restaurants sans prétention, comme on en voit dans les films, où le café chauffe en permanence derrière le comptoir. La télévision tourne en boucle et les clients défilent, les habitués, le nez plongé sur leurs pancakes et le pain perdu. Polo bleu et ventre rond, un homme est assis près de la fenêtre. Sur la table devant lui, le journal local, le Tallahassee Democrat, a mis le vainqueur des élections d'hier à la une.
C'est le gouverneur de Santis. Pourquoi je l'aime? C'est que je n'aimais pas l'autre type. Trop libéral pour moi. Lui, c'est un ancien vétéran. J'aime ça. Il a été sur des zones de guerre. C'est un mec bien. Un homme. Un vrai. Je suis Trumpiste. J'étais enregistré comme démocrate, mais j'ai basculé pour Trump. En fait, je suis allé vers Trump car j'étais anti-Clinton. Je suis contre la migration illégale, je suis un ancien policier, je sais de quoi je parle. Je trouve pas normal qu'ils arrivent comme ça et qu'on leur donne tout de suite des bons alimentaires. Tout gratuit, la nourriture, l'école, les soins médicaux, on leur donne la nationalité comme ça, sans effort.
Gillian, elle, s'est assise avec sa mère devant une assiette de brouillé. Cette afro-américaine est fonctionnaire, elle hoche la tête.
Non, je suis déçue. Je pense qu'il aurait fallu que plus de gens aillent voter. C'était serré, très serré. On n'est pas content parce que les républicains l'ont emporté en Floride.
Gillian n'est pas pour autant une anti-Trumpiste forcenée. Elle le sait, les indicateurs économiques sont bons, même si elle n'en voit pas les effets.
Je ne peux pas dire que ce soit mauvais, puisqu'on a du travail. Mais si on parle de hausse des salaires, particulièrement ici, la Floride n'a pas augmenté ses salaires depuis 10 ans. C'est très mauvais. Et maintenant que les républicains sont installés, ils ne vont rien changer.
Un plateau en équilibre dans la main, une jeune serveuse traverse la petite salle. Elle fait partie de cette Amérique qui gagne 9-10 dollars de l'heure. Politiquement, pour elle, c'est compliqué. Elle a 23 ans, elle a du mal à se faire une idée, même sur Donald Trump, ce président qu'elle qualifie de bizarre.
Beaucoup de gens ne l'aiment pas, même s'il s'intéresse sincèrement au peuple américain. Il veut redonner du lustre à l'Amérique. C'est juste la façon dont il veut le faire qui ne convient pas à tout le monde. Je suis très contente des résultats d'hier, que les démocrates aient repris la Chambre. Je pense que ça va obliger les partis à travailler ensemble. C'est ça que je veux, qu'on oblige les partis à travailler ensemble. Avant, j'étais plus conservatrice, mais vu l'évolution de la situation, je deviens plus progressiste. Je vois bien comment les pays européens s'en sortent avec leur système de santé et tous ces services qu'ils fournissent à leurs citoyens et que nous, on n'a pas.
La jeune fille pose son plateau devant John. Lui, travaillait dans la publicité, il est aujourd'hui à la retraite. Il a voté bleu.
D'une certaine façon, je suis déçu, mais pas totalement. Les démocrates ont pris la Chambre des représentants et c'est important. Ça, c'est important pour moi, c'est une victoire des démocrates. Il y a plus de femmes qui ont été élues et ça aussi, ça me réjouit. J'espérais que Gillum soit élu ici. Il aurait fait un bon gouverneur, mais c'est un État rouge républicain et c'est difficile. Je pense que les prochaines élections seront radicalement différentes.
En Floride hier, les électeurs ont aussi voté pour modifier la Constitution. Ils vont désormais permettre à ceux qui ont été un jour condamnés de pouvoir voter. Avant, y compris pour des délits mineurs, c'était plié. Privation de droit de vote à vie. En Floride, cela concerne plus d'1,5 million de personnes et parmi eux, beaucoup de Noirs, très représentés dans le système judiciaire et pénitentiaire. Une population qui, si elle avait pu voter, aurait probablement voté démocrate. Le café grouille de monde, la télévision continue à tourner en boucle sur l'écran. La Floride est une grande tache rouge dans une Amérique qui s'est hier soir un peu colorée en bleu.
Voilà, ces fameux prisonniers de Floride hein, dont on parlait Franck Madvon, effectivement, à l'instant, il y a une chose que je retiens, Caroline Fredrickson, dans ce reportage qu'on a entendu, c'est cette femme au milieu qui dit « il faut qu'on oblige les partis à travailler ensemble ». Est-ce qu'on n'est pas bien au-delà de ça, désormais? Est-ce que vous, sincèrement, vous avez quelque chose à dire à une républicaine qui serait une vraie républicaine très trumpiste, honnêtement?
Ah, c'est une question difficile, mais quand même, c'est pour les politiciens, surtout, il faut essayer. Autrement, les électeurs vont être tellement déçus des démocrates. Et Donald Trump, il dit qu'il veut investir dans l'infrastructure.
L'infrastructure, ouais.
Et aussi, il y a peut-être des projets qu'ils peuvent faire ensemble. Il faut essayer d'emblée. Autrement, je pense que c'est pas un moyen de gagner la Maison Blanche en 2020, d'être toujours obstructionniste.
La raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est parce que on a entendu des mots extrêmement durs, en fait, de la part à la fois des républicains et des démocrates, finalement, sur l'incapacité aujourd'hui à se retrouver sur un common ground, sur quelque chose de commun entre les uns et les autres. Écoutez attentivement ce que nous dit Kenneth, pardon, qui est républicain, qui habite pas très loin d'ici, donc en Virginie, un républicain du nord de la Virginie, c'est quelqu'un qui est cerné par les démocrates, c'est vrai. Mais voici comment il vit les choses, lui. Écoutez-le.
On ne met pas d'autocollant Trump sur la voiture. Elle serait attaquée, elle serait rayée, les fenêtres cassées. Quand on se promène, si je porte une chemise Trump, les gens viennent vers moi de manière très agressive. Ici, on est bien conscient d'être en territoire ennemi.
C'est comme être un républicain caché, quoi.
Oui, plein de républicains sont dans le placard, cachés, pas moi. Parce que ça me met en colère. Je ne vais pas me cacher, mais plein de gens qui ont voté Trump ne veulent pas l'admettre publiquement.
Ici, ça a toujours été une zone très démocrate, mais vous pouviez dire que vous étiez républicain avant sans qu'on vous lance des pierres. Alors, est-ce que quelque chose a changé du tout au tout depuis que Trump a été élu?
Oui, des choses importantes ont changé. Trump n'était pas censé être élu. Ils ont été choqués et en colère. Si je dis qu'il faut protéger les frontières, je suis raciste, je suis bigot. Dans le passé, les républicains baissaient la tête. Ce qui a changé, c'est que Trump est un combattant de la rue venu de New York. Et lui, il a dit « non ». On va se défendre. Cela a enragé tous les démocrates, spécialement les médias, qui avaient trop l'habitude de dire exactement ce qu'ils voulaient quand ils le voulaient.
Et président Trump won't let him get away with it. He calls them on it.
Ce que ça veut dire, c'est qu'il a polarisé, qu'il a radicalisé des deux côtés, même les démocrates.
Le président Trump, maintenant, ne laisse rien passer. Il n'a pas polarisé les gens. Ça existait déjà. Il lui a permis de s'exprimer au grand jour. Mais comment osez-vous nous attaquer comme ça? Nous sommes dans un état de guerre civile culturelle. Quand j'étais jeune, on était tous d'accord sur qui nous étions. Nous, Américains. Ce qu'était ce pays et où on allait. Le point de désaccord, c'était comment on y va. Aujourd'hui, on n'est même pas d'accord sur ce que doit être ce pays et qui nous sommes en tant qu'Américains et où on veut emmener ce pays. Et comme dans toutes les guerres civiles, Il faudra qu'un camp gagne. Nous en sommes là. Et comme je le dis à ma femme, dans une guerre civile, ça commence doucement, avec des mots. Et puis ça devient violent. Et les choses deviennent violentes maintenant.
Any civil war, it starts out very slowly, and it's just words, and then it starts becoming violent. It's becoming violent now.
Célia Belin, c'est des mots très très durs, c'est pas le premier à les avoir prononcés. On est en état de guerre civile culturelle. Est-ce qu'on est dans cet état-là aux États-Unis? C'est comme ça que vous le percevez aussi?
Il y a déjà eu dans le passé des moments de grande tension politique. On se souvient du McCarthyisme ou alors pendant les années Nixon. Donc le pays a déjà connu ça. Et puis en plus, ça ne date pas seulement de Donald Trump. Il faut se souvenir l'administration de Bush fils, en particulier la deuxième partie après Katrina, où il y a vraiment eu un rejet du président extrêmement violent, puis l'administration Obama, où toute une partie de l'Amérique a contesté la légitimité même, y compris d'ailleurs Donald Trump à l'époque, qui disait que Barack Obama était au fond pas un vrai Américain. Puis Donald Trump, les choses s'empirent. Mais il y a une réalité, c'est que les Américains vivent de plus en plus séparés. Ils vivent de plus en plus séparés physiquement, puisque vous savez qu'il y a ce phénomène où les démocrates vivent avec les démocrates, les républicains.
C'est pour ça que je posais la question à Caroline tout à l'heure. Au fond, un démocrate ne connaît pas un républicain et inversement.
Non, mais c'est un phénomène plus général de nos sociétés occidentales où de plus en plus on vit, on ressemble à ses voisins. Et ça, c'est une réalité physique et c'est aussi une réalité informationnelle où on sait que dans les réseaux sociaux, dans la presse que l'on lit, on a aussi tendance à rester dans des groupes et à n'entendre qu'une seule voix et donc à ne plus se comprendre, à ne plus se rencontrer à aucun moment de sa vie.
Mais il y a une chose dans ce que disait notamment Kenneth à l'instant, c'est aussi ce que j'ai trouvé fort fascinant, c'est au fond, on a toujours été dans la même direction, même si on ne savait pas très bien par quelle route il fallait emprunter pour y aller. Les uns la route A, l'autre la route B. Mais là, on n'a plus du tout envie d'emprunter la même route, on ne sait plus qui nous sommes en tant qu'Américains. Qu'est-ce qui aujourd'hui, au moins, pourrait les relier, ces Américains-là? À une époque, sous le drapeau, on trouvait tout le monde. Est-ce qu'on trouve toujours tout le monde sous le drapeau aujourd'hui?
Alors, il faudrait pas tester cette hypothèse, puisque ça voudrait dire, par exemple, lancer une guerre. Ce serait une manière. Mais alors, je peux même pas imaginer ce que soit un conflit armé mené par Trump, parce qu'en réalité, si on s'apercevait qu'en temps de guerre, il n'y a pas ce ralliement de tous les Américains, ce serait vraiment inquiétant. Mais il faut se souvenir des mots de Barack Obama qui disait, il n'y a pas les États rouges et les États bleus, il y a seulement les États-Unis d'Amérique. Et en fait, on a.
C'est un peu une formule quand même.
C'est une formule, mais on voit très bien que Beto O'Rourke, ça a été sa technique. Il a essayé de faire cette campagne-là. Ça n'a pas fonctionné, mais c'est probablement avec ce type de formule et ce type de positionnement qui est « je vous respecte, même si vous êtes conservateur, républicain et pro-Trump, je vous respecte », qui viendra des démocrates, à mon avis, en 2020.
Ça veut dire, Caroline Fredrickson, c'est pour vous la conclusion que c'est un constat, l'Amérique n'a jamais été aussi divisée, mais au fond, elle n'a pas envie de l'être, en fait, et elle a quand même envie de chercher des moyens de, si ce n'est de se réconcilier, en tout cas trouver des terrains qui peuvent être des terrains communs.
Oui, je pense que, et je suis optimiste, et ça doit être, autrement, il y aura une guerre civile.
Bah écoutez, ça c'est une drôle de conclusion, dites-moi, mais heureusement qu'on va se retrouver dans l'heure suivante, on essaiera d'être aussi un peu optimiste. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Vous allez rester avec nous, Célia Belin, Grégory Philips, vous restez aussi. Le téléphone sonne, donc c'est à vous de jouer, ce sera dans un instant, juste après le journal, à 19h20, avec les questions que vous vous posez, vous, autour de cette Amérique désormais. L'Amérique ici, l'Amérique avec nous aussi, nos relations, puisque Donald Trump est en France à partir de demain ou après-demain, et à tout de suite.